Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Gisèle Cage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les sommaires de cette édition du journal. Boutembo, attaque armée contre le bureau communal de Moussoussa. Une incursion violente à l'aube fait un mort et un blessé, sémant la panique dans la population. Les assaillants auraient été repérés la veille dans un quartier voisin. Tchopo, une ONG salue le calendrier électoral mais reste vigilante. L'action pour la justice, le développement et les droits humains appelle la CENI à garantir un processus inclusif, transparent et crédible pour renforcer la confiance des citoyens. Invité du jour, Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI. Il revient sur les ajustements du calendrier électoral local et les enjeux de la dernière phase du cycle électoral en RDC. Bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons cette édition avec la situation sécuritaire préoccupante dans le nord de la province du Nord Kivu. Ce vendredi matin, la ville de Boutembo s'est réveillée sous haute tension. Une attaque armée a visé le bureau de la commune Moussoussa. Bilan provisoire, un policier tué, un assaillant blessé. L'incident, survenu aux premières heures du jour, a sémé la panique parmi les habitants. Que s'est-il réellement passé, Marc Marofimbo?
L'attaque du bureau communal de Moussoussa par un groupe d'hommes armés de machettes et d'armes à feu est intervenue tôt ce vendredi matin. Selon des témoins, les assaillants avaient été aperçus la veille au quartier Chimbwe à une centaine de mètres du lieu d'attaque où ils auraient même passé la nuit. Lors de leur écussion, ils ont violemment agressé les policiers chargés de la garde, les blessant grièvement à la machette. Ce dernier a succombé à ses blessures. Les mêmes sources indiquent qu'un des assaillants aurait été atteint par balle. Cette attaque a sémé une vive panique dans la commune, perturbant les activités de la matinée. La société civile dénonce une attaque ciblée contre les forces de l'ordre et appelle à l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs soient retrouvés et jugés. Le maire de Boutembo, le commissaire supérieur principal Moa Baïkitéli Roger, s'est rendu sur les lieux. Il confirme les faits et affirme que les assaillants ont apporté l'arme du policier. Il assure que les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour identifier les responsables. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Direction le territoire de Beni où l'inquiétude grandit à Mangina. La société civile de cette commune rurale tire la sonnette d'alarme. Les cas des viols sur mineurs sont en nette augmentation. 3 cas ont déjà été signalés depuis le début du mois de juillet et les auteurs restent pour l'instant inconnus. Une situation d'autant plus préoccupante qu'elle survient en pleine période des grandes vacances scolaires. Face à cette montée des violences sexuelles, les acteurs de la société civile appellent les parents à une vigilance accrue pour protéger leurs enfants. Ils exhortent également les autorités judiciaires à ouvrir des enquêtes sérieuse pour identifier les coupables et les traduire en justice. Pour en parler, Kakule Vunyati Mwongozi est en ligne avec Marc Marofimbo.
Nous profitons, nous, de la société civile, de lancer un appel à tous les parents et surtout pendant cette période des vacances, de bien surveiller et de bien protéger les enfants pendant cette période, surtout les enfants filles. Nous le disons parce que nous venons de notifier 3 cas de viol sur mineurs. Vous comprenez que si on n'arrive pas à surveiller ou à protéger ces enfants, ils seront victimes de ces viols. Et quand on essaie, disons, de suivre d'autres informations dans les territoires, il y a celles-là ou celles qui sont en train de être kidnappé. Alors c'est là où nous demandons à l'État d'attraper les auteurs de ces viols pour subir la rigueur de la loi.
Contacté à ce sujet, la Convention pour la défense des droits humains, antenne de Mangina, affirme avoir déjà documenté 4 cas de violences sexuelles sur mineurs. Bonne nouvelle, les auteurs de ces actes ont été traduits en justice. Moïse Simvanzire, point focal de l'organisation, encourage vivement les parents et l'ensemble de la communauté à briser le silence et à dénoncer tout acte de violence sexuelle dans la région. Direction l'Ituri à présent, un geste fort en symbole et porteur d'espoir. 8 armes ont été officiellement remises ce jeudi à l'état-major des FARDC à Nizi, à une 30 kilomètres au nord de Bounia. Ces armes, autrefois entre les mains des policiers et militaires, avaient été saisies le week-end dernier par des jeunes membres des forces d'autodéfense à Nizi et Mabanga dans les territoires de Djougou. Un acte salué par les autorités coutumières qui y voient un signe d'apaisement dans une région encore secouée par les violences armées. Le récit complet avec notre correspondant sur place, Isaac Raymond.
Dimanche dernier, 8 policiers en route pour le centre de Gabarière sont tombés dans une embuscade tendue à Nizi Centre. Sans être agressés, ils ont été désarmés par ces jeunes. Deux militaires et ont été capturés avec leurs armes dans la localité minière de Mabanga, à plus de 60 km au nord de Bounia. Ces incidents avaient fait monter la tension entre les forces de l'ordre et les populations locales sur fond des regards d'insécurité. Une situation aggravée par l'attaque de la milice Codeco lundi, qui a fait une vingtaine de morts, provoqué des pillages et forcé des familles à fuir. Mais grâce à la médiation des chefs coutumiers, les armes ont été restituées et les deux militaires relâchés. Des autres armes restent toujours portées disparues. Aujourd'hui, les autorités traditionnelles affirment que la collaboration entre les jeunes et les forces de sécurité s'améliore. Et surtout, les premières familles déplacées commencent à regagner leur village. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité électorale en RDC, l'action pour la justice, le développement et le droit humain dans la province de la Tchopo salue la publication du calendrier électoral pour les élections urbaines et municipales rendues publiques le 22 juillet par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Mais l'organisation ne s'arrête pas là. Elle appelle la centrale électorale à garantir un processus inclusif, transparent et crédible. Une exigence forte pour renforcer la confiance des citoyens dans ces scrutins à venir. Les précisions avec Jacques Moukonkole.
La publication du calendrier électoral et local par la CENI est un pas important vers la consolidation de la gouvernance locale en RDC, peut-on lire dans les communiqués de presse de l'AJDDH, publié hier à Kinshasa. Cependant, ce document exprime quelques préoccupations susceptibles de compromettre la crédibilité du processus électoral si elles ne sont pas prises en compte. Il s'agit notamment de l'inclusivité et la transparence. À cet effet, l'implication de toutes les parties prenantes est requise. L'AJDDH trouve également que la faisabilité du calendrier électoral est complexe dans la mesure où beaucoup d'étapes doivent être franchies dans un temps limité. À ces deux inquiétudes, cette organisation ajoute le rôle des juridictions électorales. Celles-ci doivent faire preuve d'impartialité, d'équité et de célérité dans le traitement des contentieux électoraux, souligne Jacques Issongonfoutou, coordonnateur provincial de cette organisation. Ceci pour éviter toute suspicion de manipulation. Par ailleurs, l'AJDDH exhorte les Congolais en général, les jeunes et les femmes en particulier, à s'approprier pacifiquement ce processus. Sa réussite dépendra de la transparence, de la confiance du public et du respect des normes démocratiques, conclut ce communiqué. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Sachez aussi que la Commission électorale nationale indépendante CENI a fixé au 9 octobre prochain la tenue des élections de bourgmestres et de leurs adjoints. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, dans un entretien accordé à Radio Okapi. Il a également précisé que le scrutin de maires et de maires adjoints sont programmés pour le 22 novembre de cette année. Selon Jean-Baptiste Itipo, ces échéances électorales visent à consolider la démocratie à la base en favorisant la participation citoyenne à la gestion locale. Rencontre ce jeudi à Kinshasa entre le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba et une délégation de Christian Blind Mission. Cette délégation a été conduite par Madame Irène Essambo, ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap auprès du ministère des Affaires sociales. Au cœur des échanges, la mise en œuvre du programme national de prise en charge des personnes en situation de handicap. Les discussions ont également porté sur l'adoption par la RDC de sa politique nationale de promotion et de protection de droits de ces personnes ainsi que sur la stratégie qui les accompagne. Mbake Nyang, directeur du programme global de Christian Blin Mission International revient sur les grandes lignes de cette rencontre au micro de Blaise Makassi.
Nous venons de rencontrer le vice-premier ministre. C'était pour d'abord remercier le gouvernement de l'adoption de la nouvelle stratégie, de la nouvelle politique. Pour nous, c'est une excellente avancée par rapport à tout ce qui doit se faire pour la prise en charge de l'handicap en RDC. Deuxième chose, nous avons eu une rencontre préalable avec Madame la ministre. Nous sommes venus ici confirmer les grandes priorités sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord avec la ministre, notamment la vulgarisation des textes, ensuite la prise en charge des questions de capacité, la mise en œuvre de son administration, mais aussi et surtout les questions des données par rapport à la prise en charge de l'handicap. Toutes ces questions ont été discutées et nous sommes venus ici réitérer devant le vice-premier ministre notre engagement en tant que CBM d'accompagner le gouvernement. Nous sommes là depuis des années. Nous avons accompagné le ministère pour le développement de cette politique. Donc nous allons continuer. Ce partenariat va se renforcer.
Au Maniema, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient passe à l'action. 10 écoles, 8 centres de santé et 8 centres nutritionnels seront bientôt construits ou réhabilités dans le 7 territoire de la province. Depuis ce jeudi, les membres du comité provincial de coordination et de suivi sont réunis en atelier pour valider le site qui accueilleront ces infrastructures essentielles. Pour en parler, Roland Mugisho Kangisingi, l'un des responsables du programme dans le Maniema, est au micro de Florence Kizalunga.
Le PADRIR a bénéficié de l'appui du FIDA et de l'OFID pour l'érection des infrastructures sociales au Maniema. Et l'atelier d'aujourd'hui consacre la validation des sites de 10 écoles, 8 centres de santé et 8 centres nutritionnels. Le PADRIR, avec les structures étatiques spécialisées, notamment la province éducationnelle, la direction provinciale de la santé et le programme national de nutrition, a entrepris des missions de terrain sur des critères bien spécifiques, booster le développement agricole par l'érection des infrastructures sociales. Le ciblage de sites ou de villages devra bénéficier de l'érection d'écoles, de centres de santé ou de centres nutritionnels. L'atelier d'aujourd'hui, convoqué avec les membres du comité provincial de coordination et de suivi, composé des ministres provinciaux, des administrateurs du territoire, des groupes de bénéficiaires et des structures étatiques spécialisées, consiste à choisir parmi les sites ciblés les sites prioritaires qui devront accueillir ces ouvrages dans le cadre de la composition.
Dans les territoires de Mwinga au sud Kivu, l'inquiétude monte dans le bassin des Alia. Le cadre de concertation de la société civile alerte sur l'état critique du pont jeté sur la rivière Lia au village Mitondo, dans le groupement des Banamputé. Un pont déjà marqué par des fissures ces derniers jours et désormais partiellement endommagé. Résultat, impossible pour les véhicules et engins lourds de circuler entre Kamituga et Kitutu. Seuls les piétons et les motocyclistes peuvent encore passer, mais avec une extrême prudence, craignant un effondrement à tout moment. Face à cette menace, la société civile lance un appel pressant aux autorités pour une intervention urgente. Bien fait, Fadili Mulonda Walubanda, président de cette structure citoyenne, s'exprime au micro de René Linti Bonera.
Cette situation affecte de même les déplacements de malades de l'hôpital de Nyamibungu et de Kitutu, dont certains seraient transférés même à l'hôpital général de Kamituga pour la suite de leurs soins. Les cadres de concertation de la société civile du bassin des Alia en chefferie de Wamuzimu, territoire de Mwenga, appellent le gouvernement provincial donc qu'il se saisisse de la présente alerte avant que les choses ne s'empirent, en déployant les agents de l'office des routes pour venir donc réhabiliter ces ponts et ainsi aider la population de la chefferie de Wamuzimu et tous les passants qui utilisent ces ponts et la route nationale numéro 2. Que les personnes de bonne volonté, bien évidemment les notables leaders du territoire de Mwenga, ces cris d'alarme s'adressent également aux firmes chinoises qui exploitent de l'or aussi des territoires de Mwenga.
En prélude à la session budgétaire de septembre, l'Assemblée nationale et le gouvernement central affûtent leur violon. Objectif, harmoniser les vues sur les grandes priorités nationales. Les bureaux de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé avec une délégation gouvernementale menée par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bogi, représentant la première ministre Judith Suminwa. Empêché, cette rencontre initiée par le président de l'Assemblée nationale a permis aux deux parties de s'accorder sur l'importance de garantir une gestion rigoureuse des finances publiques en mettant l'accent sur les priorités du pays, notamment la question sécuritaire. Un compte-rendu signé Michel Kifindangoy.
Prenant la parole devant la délégation gouvernementale constituée des ministres et vice-ministres du budget et des finances, le président de l'Assemblée nationale affirme que le retour de la paix et la sécurité dans l'est du pays constitue la priorité des priorités. Vital Kamerhe recommande au gouvernement de poursuivre les efforts dans ce sens, mais sans compromettre l'amélioration du social des Congolais, la rémunération des fonctionnaires de l'État, les investissements et le bon fonctionnement des institutions de la République. Le président de la commission ECOFIN, Guy Mafuta, donne ici la restitution de cette réunion.
Vous savez, aujourd'hui, face à ce que vivent nos compatriotes à l'est du Congo, face à l'occupation de notre territoire national, le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'avis qu'il faut absolument soutenir ces processus qui ont comme objectif principal de ramener la paix. Le président de l'Assemblée a toujours été clair. Il faut soutenir par notre attitude, par nos dires. Arrivera un moment peut-être qu'on abordera la question au sein de l'hémicycle.
Pour assurer un contrôle parlementaire efficace, l'Assemblée nationale lance 11 missions d'enquête parlementaire et il était également question que le gouvernement cerne la pertinence de ces missions, souligne Guy Mafuta.
Actualité internationale. À Madagascar, l'émotion reste vive après une série de drames liés à des intoxications alimentaires. C'est jeudi 24 juillet, le président André Rajoelina, entouré de plusieurs ministres, est revenu longuement à la télévision nationale sur ces événements tragiques qui ont coûté la vie à 53 personnes depuis la mi-juin. Parmi le cas le plus marquant, celui d'une fête d'anniversaire en banlieue d'Antananarivo où 32 personnes ont trouvé la mort. Le chef de l'État a révélé que deux poisons serrés à l'origine de ce drame. De son côté, le ministre de la Santé a évoqué pour la première fois un cas de botulisme à Ambrositra où 17 décès ont été enregistrés. Une maladie rare liée à une mauvaise conservation des aliments confirmée par des tests de l'Institut Pasteur de Paris. Mais ce même laboratoire pourtant compétent pour détecter la toxique botulique n'a pas été sollicité pour le décès survenu à Ambro-Imalaza. Dans cette affaire, l'enquête judiciaire en cours pointe vers un empoisonnement volontaire sur un fonds de règlement de compte familial.
L'invité.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié jeudi un communiqué rectificatif concernant le calendrier des élections locales, une mise à jour qui corrige une erreur matérielle relevée dans une précédente note. Ces nouveaux chronogrammes concernent les scrutins des conseillers urbains, des maires et de leurs adjoints ainsi que des bourgmestres et leurs adjoints sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit selon la CENI de la dernière étape du cycle électoral en cours. Pour en parler, Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI et l'invité de Radio Okapi, il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Jean-Baptiste Itipo.
Bonjour la Radio Okapi.
La Commission électorale nationale indépendante CENI vient de publier un nouveau calendrier. Que comprendre de ces documents?
En fait, le calendrier rendu public à la date du 22 juillet 2020, c'est un calendrier électoral qui porte sur les élections des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Donc la Commission électorale nationale indépendante a rendu public ces calendriers qui normalement rentrent dans le cadre de l'application du calendrier électoral rendu public depuis 2022.
Ce nouveau chronogramme précise les étapes à venir pour les élections de bourgmestres, maires et leurs adjoints. La CENI a-t-elle les moyens de sa politique?
Vous savez que le processus électoral en République démocratique du Congo est financé entièrement par le gouvernement de la République. À ce niveau, tout le monde a été informé des échanges entre la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement à travers la vice-primature chargée de l'intérieur. J'ose croire que le gouvernement mettra des moyens à la disposition de la CENI pour que la CENI exécute ses calendriers rendus publics.
Les communs des mortels se posent des questions à savoir qui sont habilités à voter les bourgmestres, les maires et leurs adjoints.
Très très bonne question. Les bourgmestres adjoints ainsi que les conseillers urbains sont élus au second degré par les conseillers communaux. Par contre, les maires et maires adjoints sont élus au troisième degré par les conseillers urbains. Et je précise que il n'y aura pas élection de maire et maire adjoint à Kinshasa, parce que Kinshasa a le statut d'une ville-province et que l'élection de bourgmestre, bourgmestre adjoint, conseiller urbain, maire et maire adjoint va se réaliser uniquement dans les communes situées au chef-lieu des provinces.
Quel est le sens que vous donnez à ces calendriers publiés pour apporter la correction?
Juste une petite erreur qui s'est glissée en ce qui concerne l'élection des maires et maires adjoints. Vous avez l'habitude d'utiliser l'ordinateur, il y a parfois les effets des copies-collées et cela est arrivé malheureusement. Et donc voilà pourquoi on a rendu public un autre communiqué pour dire que les maires et les maires adjoints sont élus par les conseillers urbains. Mais la première partie de votre question est intéressante parce que le calendrier rendu public va permettre au pays d'asseoir davantage la démocratie à la base. Désormais donc, nos bourgmestres seront élus et donc seront redevables vis-à-vis de la population. Parce que les conseillers communaux qui vont élire les bourgmestres et bourgmestres adjoints doivent le faire au nom de leurs électeurs. Ils vont agir conformément au mandat qu'ils ont reçu du souverain primaire. C'est pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on assiste à des actes de corruption des conseillers communaux pour élire le bourgmestre, bourgmestre adjoint ou le conseiller urbain.
Quel est le soubassement juridique de ce texte que la CENI vient de publier?
En fait, le soubassement juridique, c'est normalement c'est la loi électorale qui donne mandat, et même la Constitution de la République donne mandat à la CENI d'assurer la régularité du processus électoral. Et voilà, la CENI est dans cette prérogative constitutionnelle d'assurer la régularité du processus électoral en République démocratique du Congo.
Monsieur Jean-Baptiste Itipo, nous vous disons merci.
Merci beaucoup à la Radio Kapi.
Invité du journal, Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, nous a éclairé sur les ajustements apportés au calendrier électoral local et sur les enjeux de cette dernière phase du cycle électoral. C'est la fin de ce journal sur Radio Kapi. À la mise en onde, Dieudonné Nyangasa, coordination Jean Gando, présentation Gisèle Cage. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de nos programmes, restez connectés via WhatsApp en utilisant le lien disponible sur nos pages Facebook et X. Votre fidélité nous touche, alors restez à l'écoute de Radio Kapi.